Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Bienvenue à tous. Gros dossier aujourd'hui. On va parler des difficultés administratives des étrangers en France. Quand le silence de l'administration nous prive de nos droits et chamboule complètement nos vies, pour demander un titre de séjour, un regroupement familial, une naturalisation, il arrive très souvent que les étrangers éprouvent de sérieuses difficultés pour obtenir un rendez-vous. La crise sanitaire du Covid-19 a aggravé la situation. Des étrangers souhaitant compléter leur intégration par l'accès à la citoyenneté française ont du mal à obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier. D'autres ont des dossiers de regroupement ou de réunification familiale qui durent des mois, voire des années, sans obtenir une réponse de l'administration française. D'autres encore galèrent pour obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier de régularisation et attendre des mois sans avoir des réponses que la suite de la suite de leur dossier. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
C'est un gros dossier aujourd'hui.
Effectivement.
Oui, parce que beaucoup se plaignent parce que à cause du coronavirus qui devient l'excuse pour beaucoup.
Oui.
Il faut le dire. Justement.
Et aussi en même temps le bas qui blesse en même temps.
Le bas qui blesse parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en difficulté d'ailleurs. Le standard a déjà beaucoup d'appels, donc si vous avez des témoignages, n'hésitez surtout pas, racontez-nous votre histoire personnelle, comment ça se passe, parce que l'excuse du coronavirus, de la Covid-19, l'administration française, depuis plusieurs mois, ne joue pas son rôle.
Effectivement, il y a un vrai problème.
Voilà.
Il y a un vrai problème qui concerne beaucoup d'étrangers. Dans beaucoup de domaines, c'est pas que des étrangers qui demandent la régularisation, c'est des étrangers qui demandent une procédure de regroupement familial, d'autres de naturalisation, d'autres tout simplement de renouvellement de titre de séjour.
Est-ce qu'on peut dire que c'est fait à dessein de la part de l'administration française ?
Non, je ne crois pas que ce soit volontaire, vraiment, parce que c'est un dysfonctionnement administratif qu'il y a lieu de corriger.
Mais dans l'urgence. Ça fait des mois que ça dure.
Ça fait des années, on va dire même plus, mais ça s'est aggravé.
Lors du premier confinement, l'administration s'était prononcée en organisant, en prolongeant justement. Mais là, il y a des personnes, le titre de séjour arrive à expiration, pour pas le renouveler, on se retrouve sans papier.
Ah oui, remarque très pertinente, parce que le même fait qui avait justifié la prorogation de l'expiration, de la date de validité des titres qui sont arrivés à expiration, une prolongation à deux fois, ça veut dire deux fois trois mois, le même fait existe toujours et s'est empiré. C'est ce même fait qui a justifié que l'on ait prolongé l'état d'urgence sanitaire, d'abord jusqu'en février, en plus jusqu'en juin. C'est ce même fait qui a justifié des confinements, reconfinements, déconfinements, couvre-feu, recouvre-feu, avec donc un état d'urgence sanitaire et un état sanitaire qui est là avéré. On parle de pic au niveau de la tension hospitalière qui dépasse celui qu'on a connu avec le deuxième confinement.
Ouais.
Donc les mêmes motifs sont là, alors qu'il y a un vide à ce niveau, un vide administratif, et beaucoup d'étrangers galèrent et souffrent de cet état de fait qu'il y a lieu de corriger, certes, qui ne relève pas d'une volonté manifeste, mais on ne comprend pas quelle est la motivation vraiment de ce silence de l'administration.
Le
silence de l'administration, on ne parle pas que des préfectures, parce que les préfectures sont là et dépendent carrément d'une volonté gouvernementale. Donc, quelle est la motivation de ce silence gouvernemental, ce même gouvernement qui avait pris conscience de cette situation exceptionnelle et qui avait pris des mesures exceptionnelles. Or, la même situation exceptionnelle continue, mais il n'y a plus rien. Silence radio. Heureusement que les radios parlent, heureusement que les journaux parlent aussi.
Et heureusement qu'il y a le droit et nous. Alors, la situation d'une doctorante sénégalaise à Metz, mère de trois enfants, éprouve de sérieuses difficultés à cause du silence de l'administration sur sa demande de naturalisation. Nous l'aurons en direct. D'ailleurs, elle est déjà en direct. Nous allons nous entretenir avec elle dans quelques instants.
Effectivement. En l'occurrence, c'est une demande de titre de séjour pour celle-ci. Il y a une autre personne, effectivement, pour une demande de naturalisation, pareil, qui est toujours dans l'est de la France. Mais je pense que la naturalisation même, certes, effectivement, on y aspire pour son intégration, mais on a déjà quelque chose, on a un droit au séjour. Le droit au séjour qu'on a nous permet de continuer notre travail, de continuer notre intégration. Mais si on est en manque de droit au séjour, ou bien si on a un droit au séjour et que ce droit au séjour risque de s'estomper, risque de finir parce que l'administration nous a zappé, ne nous dit rien, là ça devient grave. Comme vous l'aviez dit, ça peut chambouler une vie, ça peut même aussi compromettre l'exercice de nos droits Or, on est dans un pays de droit par excellence, il faut le dire. Parce que ce qui se passe en France, ça ne se passe pas dans d'autres pays. C'est un pays, quoi qu'on puisse dire, qui respecte quand même l'essentiel des droits fondamentaux, si bien que parfois, ce pays est sanctionné au niveau des instances européennes pour manquement aux droits fondamentaux. Néanmoins, les règles qui existent ici, que ce soit au niveau civil, au niveau administratif, sont quand même des règles qui sont protectrices de l'usager, que l'usager soit l'usager de l'administration, qu'il soit un national ou bien un étranger. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a lieu de booster cette administration pour lui dire que vraiment, il y a un problème. Au-delà de cet exemple-là, qu'on va traiter aujourd'hui et dire qu'il a été traité par des confrères de l'Est de la France, donc le Républicain Lorrain, un journal qui a pris quand même la cause de cette dame-là pour dire que voilà, de manière neutre, hein, en tant que journaliste, regardez, il y a quelque chose à faire. Donc il y a cette alerte-là qu'il faut continuer pour dire que, sans pour autant entrer dans des velléités, parce qu'il y a des gens, automatiquement, il faut attaquer l'administration, non, ça ne sert à rien.
Ils sont racistes.
L'objectif, ça, oui, non. C'est pas ça, tout ça,
c'est ça.
C'est trouver des solutions pragmatiques pour régler des problèmes qui sont là, des vrais problèmes.
Exact. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous faire partager votre témoignage au 01 55 07 58 00. Nous sommes en direct, c'est le droit et nous. On part tout de suite au téléphone, on va prendre cette dame. Allô, allô, bonjour.
Bonjour Phil.
Oui, bonjour. Bonjour,
c'est bonjour.
Madame. C'est madame
Oui, c'est madame Mbot Fatou.
Madame Mbot Fatou, nous vous écoutons, madame Mbot Fatou. Alors, que se passe-t-il?
Voilà, madame Mbot Fatou, bonjour. Pouvez-vous quand même, dans un premier temps, nous expliquer, comme l'a dit Phil, la situation qui vous préoccupe et qui, en ce moment, a occasionné une mobilisation dans l'Est de la France, notamment à travers ce texte, cet article très pertinent qui a été fait par le journal Républicain Lorrain et qui a entraîné beaucoup de réactions. Merci de nous en parler davantage, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, qui probablement sont confrontés au même problème que vous. Ce qui est intéressant à travers votre histoire, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'étrangers qui sont dans cette situation et qui n'ont pas la parole pour en parler. Donc aujourd'hui, vous allez être leur porte-parole. Allons-y, madame.
Alors c'est moi qui vous remercie d'abord de me permettre de m'exprimer à travers de vos antennes. Donc, je commencerai par me présenter. Je m'appelle Madame Mbot Fatou. Mm-hmm. Je suis doctorante à l'Université de Lorraine. Mm-hmm. En même temps, je suis employée polyvalente en supermarché bio. Mm-hmm. Et enfin, je suis maman de trois petits garçons.
Bon courage, madame.
Merci beaucoup.
Et félicitations, j'allais dire, plutôt pour les trois enfants aussi.
Merci bien. Mm-hmm. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai déposé mon demande de renouvellement de titre de séjour au niveau de la préfecture depuis le mois de septembre. Mm-hmm. Alors, face à cela, je n'ai jamais eu de réaction, 6 mois déjà, mm-hmm. après avoir tenté plusieurs fois par mail, que je ne compte plus, par des appels répétés, par des déplacements. Mmh. La préfecture reste muette par rapport à ma demande. Mmh. Ne me délivre même pas de récépissé me permettant de prolonger mes droits sur le sol français, mmh. me permettant de travailler dignement et de subvenir aux besoins de mes enfants. Mmh. Donc, j'ai tapé à toutes les portes qui m'étaient ouvertes ou bien qui m'étaient proposées.
Vous écoutez, effectivement.
Moment-là. Mmh. Mmh. Soit en vain. Donc la seule alternative que j'ai eue, c'est d'aller voir les médias. Pour mmh. qu'au moins, si je perds mon boulot, tout le monde le saura. Mmh. Voilà, c'est ce qui m'a amené à aller contacter les médias et puis en parler, qu'on en parle.
Mmh. Très, très bien. Et donc effectivement, c'est un problème qui est récurrent, comme je le disais tantôt. Parce qu'effectivement, au-delà de vous, ce qui est intéressant, si c'était juste vous, on va dire oui, c'est un épiphénomène. On peut même dire, ouais, mais elle est fâchée, mais quand même, c'est courant que des étrangers aient des problèmes avec l'administration. Mais non, ce n'est pas courant, comme le disait Phil. La situation a été accentuée par la crise du coronavirus, qui sert naturellement de prétexte, parce qu'on a dématérialisé pas mal de procédures administratives. Et de ce fait, il faut accepter que l'administration, effectivement, est confrontée au même problème que tout le monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est dématérialisé, on a du mal à recevoir les gens. Et il y a la pandémie, il y a le virus qui nous titille, qui nous agresse. Et effectivement, il y a ce problème-là de lenteur qui peut se justifier. Mais si ce problème va au-delà de ce qui est un fonctionnement normal de l'administration, si ce problème cause un dysfonctionnement qui peut altérer l'intégration d'un étranger, son parcours d'intégration, ou bien même sa vie, parce que vous, en ce qui vous concerne, c'est au-delà même de l'intégration. C'est d'abord votre vie personnelle. Et vous avez parlé d'enfants. il y a des enfants. Et en ce sens-là, il y a un problème parce que l'intérêt supérieur des enfants, la vie des enfants peut être en cause et l'administration ne peut pas être responsable ni directement ni indirectement donc de préjudice qui pourrait être causé à des enfants. D'autant plus qu'on est dans un pays, comme je le disais, de droits de l'homme qui fait partie des pays qui promeuvent cette convention internationale sur les droits de l'enfant, ce qu'on appelle classiquement, en des termes résumés, la CID, qui, en son article 3-1, dit précisément que les administrations, les autorités judiciaires, les gouvernements ont l'obligation, dans toute décision qui peut concerner la situation d'un enfant, de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. Là, ce sont des enfants qui sont déjà nés et qui sont mineurs. Même si l'enfant n'était pas encore né, l'administration a intérêt de tenir compte de son intérêt. Or, il est dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que l'administration doit prendre des précautions pour préserver cette mère. Infants conceptus pronato abitur. Cela veut dire que l'enfant simplement conçu a des droits à chaque fois qu'il y va de son intérêt. Or, il est de l'intérêt de vos enfants d'avoir une mère qui est seule ici en France, qui prend soin d'eux, d'avoir son titre de séjour, de pouvoir continuer son parcours d'intégration à la fois académique, rappelons-le, vous êtes étudiante et mieux, vous êtes doctorante et vous faites votre thèse convenablement malgré ce qui se passe. Donc effectivement, à cela, il y a un préjudice que l'administration devrait réparer. Et au-delà de vous, il y a d'autres personnes qui sont dans des cas de figure similaires et qui éprouvent des torts, des préjudices au regard de ce silence de l'administration qui est aggravé à tort ou à raison par cette crise pandémique du coronavirus. Donc à cela, moi ce que je voulais vous dire, de manière globale, avant aussi de vous poser d'autres questions dans le fond sur ce qui s'est passé, sur comment c'est appréhendé, au-delà du journal qui vous a écouté, c'est bien quand même qu'il y ait des journalistes, quand même heureusement, parce que ce qui est bien dans les médias, une fois qu'ils prennent une question en main, les gens se bougent. Parfois les gens vous négligent, hein, jusqu'à ce qu'un journaliste vient de manière pertinente déterminer votre problème de manière objective, les gens se disent attends, c'est du sérieux, c'est un journal sérieux, c'est des gens qui prennent la précaution d'appréhender le problème avant de dire quoi que ce soit, et là les gens se bousculent. C'est très malheureux parce que le problème n'est pas nouveau, il existait. Vous avez eu la diligence d'essayer de prendre contact avec d'autres structures, de prendre contact avec la préfecture. J'imagine que vous êtes allé là-bas, vous avez téléphoné avant d'en arriver là.
Plusieurs reprises. Je peux même dire que chaque deux jours, je demande la permission pour m'y rendre, pour avoir une réponse, ne serait-ce que parler à un responsable ou bien parler à un conseiller, ce qui n'a pas été possible de faire. Donc, de toutes mes forces, de tout ce que j'ai pu faire, j'ai essayé par tous les moyens sans jamais eu de réponse.
Ah oui, et là c'est vraiment dommage parce qu'on pourrait vous reprocher une négligence, un défaut de diligence parce que vous devez prendre la diligence de vous rapprocher de l'administration pour acquérir ce titre de séjour qui vous est de droit, effectivement. Oui. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez demandé, vous, comme document de titre de séjour au regard de votre... Vous êtes en changement de statut, vous êtes toujours en thèse finale ou bien vous avez demandé le renouvellement de votre titre de séjour tout simplement?
Alors, je suis toujours en thèse. Compte tenu de ma vie de famille, il est nécessaire de demander un changement de titre de séjour, vu que le titre de séjour étudiant est assez précaire et il ne me permettait pas de subvenir à mes besoins de travailler parce qu'on est limité en nombre d'heures. C'était vraiment galère de travailler à 20 heures semaine et de pouvoir nourrir une famille. De fait, j'ai demandé après conseil et puis après avoir consulté plusieurs experts dans ce domaine, j'ai demandé à me faire délivrer un titre de séjour privilégié familial, vu que je remplissais les conditions. Donc c'était un changement de statut que je demandais.
Et nous-mêmes, vous nous avez consulté, vous avez intervenu en tant qu'experte ici à la radio. Et cette dame a intervenu, si vous vous rappelez, quand on parlait de la problématique des étudiants étrangers, à un moment quand le gouvernement a voulu un peu tout privatiser en augmentant les frais des scolarités. Et madame qui est bénévole aussi dans beaucoup d'associations et qui s'occupe des questions concernant les questions sociales concernant l'insertion des immigrés et qui même par rapport à votre thèse, si on se rappelle bien, c'était par rapport à vous traiter des questions concernant l'excision, les droits des femmes,
Les souffrances sociales.
Les souffrances sociales.
Particulièrement la thématique de l'excision qui n'arrête pas de faire couler beaucoup d'encre, que ce soit ici à Afrique ou en Afrique ou dans la diaspora.
Alors je voudrais demander justement à Vitel quelle peut être la suite par rapport à notre chère dame avec nous en ligne, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que bon, du coup, beaucoup vont peut-être se retrouver sans papier, il n'y a rien qui est fait, L'administration tourne au ralenti à cause des confinements et reconfinements, etc. Qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à son travail?
Oui, effectivement. Oui, allez-y, madame.
Excusez-moi. Allez-y. Alors, c'est ce qui a même motivé le fait que j'ai été voir les médias. J'en profite pour remercier mon responsable qui a été patient jusque-là, qui a accepté de me garder 3 mois après mon titre ne soit plus valide. Mmh. Et là, vraiment, il ne faut plus prendre de risques à me garder. Ne sachant pas si je suis dans la régularité ou pas.
Mais ce n'est pas de votre faute.
Exactement.
Ce n'est pas de ma faute, mais lui aussi, il ne sait pas ce qu'il en est exactement.
Pourquoi. Et ça, c'est ça, on va vous le dire, madame. Heureusement que Phil
ne réagit pas par rapport à ma demande. Donc, il ne veut pas vraiment prendre la responsabilité de garder une personne sans papier. Alors, je sais juste ce qu'il dit. Malgré la rigueur dont vous faites preuve envers vous-même, malgré ce professionnalisme dont nous tous pouvons en témoigner, je ne prendrai pas le risque d'avoir l'inspection du travail sur mon dos pour avoir gardé une personne sans papier.
Mais Madame Bodge, permettez-moi de vous dire quelque chose pour vous et pour votre employeur. Vous n'êtes pas sans papier. Comprenez, vous avez introduit en temps votre demande de renouvellement de titre de séjour.
2 mois avant qu'il soit expiré.
Très bien, donc ça veut dire que votre droit à séjour est maintenu jusqu'à ce que la préfecture se prononce. Ce n'est pas une première demande. Quand on fait une première demande, effectivement, c'est comme beaucoup de gens qui font de la régularisation, il faut attendre que l'administration ou, par exemple, l'autorité du travail, qu'on appelle la direction du travail, classiquement la directe, donne son autorisation de travail. Mais vous, pour ce qui vous concerne, vous avez un droit au séjour. Vous demandez le renouvellement de ce droit au séjour. Votre droit au séjour est maintenu d'après les règles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'on appelle le CCDA. Donc ne vous appelez pas du tout sans papier. Vous ne l'êtes pas du tout. Ce silence de l'administration ne va pas vous être opposable, comme l'a dit M. Phil tout à l'heure. Ce n'est pas de votre faute. Tant que l'administration ne s'est pas prononcée dans le fond de votre dossier pour vous dire si c'est bon ou si c'est non, vous êtes en situation régulière. Donc cela peut vous rassurer et rassurer votre employeur. L'étranger qui a un titre de séjour qui demande son renouvellement, normalement doit avoir un récépissé. On ne vous a pas donné un récépissé?
Non.
Oui, c'est un problème, c'est un dysfonctionnement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce récépissé et j'ai vu des étudiants étrangers aussi qui voulaient faire leur changement de statut, qui n'ont pas eu de récépissé et qui se retrouvent sans papier. Une fois qu'ils ont eu l'emploi, ils vont vers l'administration qui leur a dit « Vous n'êtes plus en situation régulière. »
C'est incroyable.
C'est incroyable, hein? Ouais. Ça veut dire que vous êtes piégé. Vous faites tout ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Vous avez du mal à aller sur Internet pour avoir un rendez-vous. Vous avez le rendez-vous après l'expiration, 2 semaines. D'ailleurs, il y a un étudiant, je vous défile, quelques jours après. C'est quelques jours après l'expiration. On lui dit non, monsieur, vous avez présenté votre demande après l'expiration de votre titre de séjour. Or, ce qui a entraîné cet état de fait, c'est l'absence de possibilité de rendez-vous. Donc, rassurez-vous pour vous et pour votre employeur, votre relation de travail, vous pouvez la maintenir parce que vous n'êtes pas du tout sans papier. Il vous appartient maintenant de faire ce qu'on appelle une injonction de communication, de la motivation du silence gardé par l'administration. Nous pouvons vous aider bénévolement en cela, madame. On va prendre contact avec vous. Notamment en ce qui concerne les dispositions d'une loi de 1979 qui a été réitérée dans le code des relations entre l'administration et le public à travers l'article L211 et suivant de ce code qui dit que l'administration est tenue, même si elle garde son silence, parce qu'en la matière, pour ce qui vous concerne en droit des étrangers, le silence de l'administration peut valoir une décision implicite de rejet au bout de 4 mois. Or, vous, en l'occurrence, on vous a bien dit qu'il n'y a pas de décision silencieuse. J'ai bien lu l'article très pertinent du journal Le Républicain Lorrain. L'administration a répondu que votre demande est en cours. Quand votre demande est en cours, ça veut dire
parce
que, madame...
Parce que ça a été médiatisé.
Exactement. J'espère peut-être bien. Et si c'est le cas, donc rien que cet article-là va vous sauver avec votre employeur. Vous pouvez dire, regardez, moi, je ne suis pas sans papier. L'administration a même répondu à un média que ma demande est en cours. À partir du moment où votre demande est en cours, vos droits sont maintenus. Vous avez le droit de continuer de travailler, bien sûr, en respectant les dispositions du Code du travail, en l'occurrence celles des articles L52-21 et suivants du Code du travail, qui vous permettent de travailler à titre accessoire avec un volume horaire annuel de 964 heures. Ça, c'est un élément important. Avant de donner la parole aux auditeurs, Phil, je vais juste donner quelques éléments à cette dame qui nous écoute bien. Donc, il faut noter que vous devez faire cette injonction. Demandez pourquoi on ne vous a pas donné le récépissé. Ça, déjà, pour moi, c'est un dysfonctionnement.
Exact.
Aussi, pourquoi ce temps? Et ce que je dis, c'est valable pour toute personne qui nous écoute, que ce soit une demande de titre de séjour et même une demande de naturalisation, parce qu'on a le droit de déposer. On ne peut pas exiger la naturalisation, mais on peut exiger de l'administration quand même qu'il accepte de recevoir notre dossier.
Exact.
Si on a du mal à avoir un rendez-vous, là, il y a un dysfonctionnement. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une injonction de motivation. Même si on est sans papier. Par exemple, dans l'article que j'ai lu, il a été mentionné que vous avez fait une demande, vous auriez fait, on va utiliser le conditionnel, d'admission exceptionnelle au séjour. Et que pour cette demande-là, les délais sont en général de 18 mois. Mais ça, c'est une aberration. Parce que ça n'existe pas. On ne peut pas, quand on a un titre de séjour, demander une admission au séjour. Phil, est-ce qu'on peut demander à régulariser une situation qui est déjà régulière?
Non.
Vous comprenez? C'est ce que j'ai lu hier, j'en ai rigolé. Mais on ne peut pas demander à régulariser quelque chose qui est régulière. On ne peut pas réparer une voiture qui marche.
Voilà, voilà pourquoi je pense que c'est un peu fait à dessein en profit de la situation du confinement, enfin du coronavirus, tout ça, pour pouvoir mettre certaines personnes en difficulté ou peut-être que le ministère de l'Intérieur a une mission cachée dont on ne sait. Allez, on va, Madame, rester avec nous. Nous allons donner la parole aussi à d'autres auditeurs qui sont.
Elle voulait ajouter quelque chose avant, oui.
Voilà, qui sont en souffrance. On va donner la parole à John. Est-ce qu'il est là, John? Allô, John? John qui ne répond pas. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre, vu que John a raté sa chance. Allô, bonjour. Votre numéro termine par 18. Nous vous écoutons.
Allô, vous m'entendez?
Nous vous entendons.
Oui, bonjour, Phil.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Moussa Rital.
Bonjour, monsieur.
Alors, moi, c'est Monsieur Gay. Je vous suis tous les jours et tous les mercredis sur votre antenne, à ce cadre. Et moi aussi, mon souci, c'est prise de rendez-vous pour une demande de naturalisation. Et là, parce que j'habite dans le 93 et on dépend de la structure de Bobigny. Et c'est impossible de prendre rendez-vous sur le plateforme.
Voilà.
Le plateforme est complètement fermé.
C'est notre dossier du jour, d'ailleurs.
Oui. Alors. Effectivement. Oui, au fait, ça résume la problématique, mais je préfère qu'on purge quand même ça. C'est ces deux dossiers comme ça, on revient sur ça par un titre accessoire. Pour revenir sur cette problématique qui vous concerne, M. Gay, effectivement, qui correspond à la problématique, il faut écouter tout ce qu'on dit parce que vous pouvez en tirer aussi donc des informations qui sont utiles sur ce qu'il faut faire. Ça renvoie à tout à l'heure la question que posait Phil. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire? Mais je voulais préalablement, Madame Boop, vous êtes encore là?
Madame Boop, elle est toujours là.
Oui, alors oui, je suis toujours là. Bon, je voulais en profiter, comme je l'ai fait sur avec mon témoignage sur l'article. Encore une fois, exprimer un cri. Et cette fois-ci, ce sera par rapport à mon université.
Ah oui, j'allais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez un soutien de votre université, de votre école doctorale?
Voilà, donc par rapport à l'école doctorale, c'est le moment ou jamais. Nous, doctorants étrangers, on souffre. Les conditions sont pénibles. Je ne citerai pas par là où je suis passée, ce qui est le cas de pas mal de doctorants d'entre nous. On a besoin de trouver notre place entre ce qui est monde de l'université et de la préfecture, parce qu'on peine à se retrouver. À l'université, on est considéré comme personnel, à la préfecture, comme un simple étudiant. On peine à trouver notre place. De grâce, je sais que vous êtes là, je sais que vous nous écoutez. Un peu plus d'attention par rapport à nous, par rapport à notre statut. On veut juste mener nos recherches scientifiques tranquillement, ce qui n'est pas trop prétentieux. Alors aidez-nous à produire, aidez-nous à je sais, vraiment, j'ai plus les mots parce que vraiment, c'est les mots.
Achevez votre doctorat, tout simplement.
Voilà, achevez mon doctorat en toute tranquillité, échangez avec les autres labos, donnez mon point de vue sur les questions scientifiques que l'on pose au niveau de notre laboratoire. On ne demande pas plus.
Très bien, madame. Donc, c'est très bien. J'espère que ce cri de cœur a été entendu et que de manière globale, avant de passer, revenir sur la question de M. Gay, les conseils qu'on peut vous donner ici, c'est que retenez que vous n'êtes pas en train de faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. C'est une erreur. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour. Vous demandez un renouvellement. Première information. Deuxième information, vous avez le droit à un récépissé. C'est la loi qui l'exige. Autre information, la préfecture, contrairement à une demande de régularisation, a une compétence liée pour la demande que vous avez faite. Le soubassement de votre demande au regard des éléments que vous avez dit, votre famille, vos enfants, du fait que vous êtes dans l'isolement familial dans votre pays d'origine, d'après ce qui est dit dans l'article et ce que vous avez confirmé, que vous n'avez plus ni vos grands-parents, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, vous avez les seuls états qui vous restent, ce sont vos trois enfants qui sont en France. Le centre de votre vie personnelle et privée et familiale est en France. Sur la base d'une disposition fondamentale qui relève de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est consacrée en droit interne français, à travers les dispositions de l'article 1313-11-7 du Code des étrangers, la préfecture a des compétences liées, doit vous donner ce titre de séjour quand vous déterminez et vous démontrez que vous remplissez les conditions. Or, c'est le cas en l'occurrence. Donc, il faut se dire que vous êtes dans votre droit par rapport à ça. Autre chose par rapport à votre laboratoire, à partir du moment où vous êtes considéré comme du personnel, ils auraient pu vous aider à avoir ce qu'on appelle la carte de séjour passeport talent chercheur. La loi a changé depuis le 7 mars 2016. Avec cette loi entrée en vigueur le 1er novembre 2016, cette administration universitaire aurait pu et peut toujours vous accompagner dans la recherche de ce titre de séjour, à défaut de ce titre de séjour vie privée familiale. Ou bien, à défaut, vous retournez à votre titre de séjour étudiant et continuez vos études tranquillement. Voilà ce qu'on vous conseille, madame. Nous vous encourageons et puis, remercions aussi les médias là-bas sur place. En l'occurrence, le Républicain Lorrain qui vous a aidé à parler de votre cri de cœur qui est entendu et que maintenant, avec Africa Radio, je pense que vous êtes entendu partout. Parce qu'on est écouté un peu partout en Afrique, partout en France, en Europe. J'espère bien que les autorités administratives, effectivement, à travers même l'injonction qu'on vous aidera à faire, essayons de revenir à meilleure fortune pour vous et pour tous les autres étrangers qui sont concernés par ce cas de figure, en l'occurrence Moussé Gueye. Moussé Gueye, pour vous dire, donc ça nous fait un tremplin, madame, nous vous remercions vraiment, et donc on reviendra vers vous pour faire la suite par rapport à cela. D'accord ?
Merci beaucoup, madame, je rappelle que nous étions donc en direct de Metz.
De Metz, oui.
C'est bien cela.
On est à Moselle.
Voilà, oui. Voilà. On va donner la parole à... Est-ce qu'il est avec nous ? Lévy, Serge ? Serge Lévy ? Serge Lévy qui ne répond pas. Alors, nous allons enchaîner. Il nous a quitté tout à l'heure, notre ami John.
Oui, allô ?
Oui, John, bonjour.
Bonjour.
Oui,
bonjour.
Bonjour, Africa Radio.
Bonjour, John. En
fait, je souhaite poser une question.
Allons-y.
Relative au problème du Covid-19 qui ne permet plus aux étrangers d'avoir des rendez-vous. Bon. Mmh. En effet, je suis un employeur dans la restauration et j'ai rencontré une dame qui a des compétences nécessaires et qui remplit certaines conditions. À savoir, elle a un enfant, ça fait plus de 7 ans et elle peut justifier de sa présence en France depuis 7 ans. Et j'ai regardé sur le site de la préfecture, il y a des possibilités qu'on fasse une demande de titre de séjour. Pour ce motif-là.
Très bien.
Et depuis plus d'un an, on est sur le site. J'ai même payé des gens
pour avoir un rendez-vous.
J'ai même payé des gens à se connecter pour être un rendez-vous. C'est impossible.
Et vous voyez ça ?
J'ai créé la préfecture par recommander pour leur dire de me trouver un rendez-vous. Ils m'ont répondu qu'il faut se connecter.
Et bon, alors que tout le monde se connecte. Tout le monde se connecte, mais le site, il bug.
Voilà. Il n'y a pas de rendez-vous. Mais bon, je voulais vous poser une question.
Allez-y.
Je suis allé sur le site de d'autres villes. Parce qu'en fait, moi, je défends l'Essonne. Dans le 91. Je suis allé sur le site de d'autres départements, à savoir en province. Et j'ai constaté que là-bas, il y a des places. Est-ce que il est possible de domicilier la dame dans une ville comme Toulouse et faire la demande là-bas?
Très bien. Question très intéressante et témoignage très intéressant. Mais on va revenir sur la question de Moussé Gueye, qu'on n'a pas du tout zappé par rapport au même problème. Lui, c'est la naturalisation. Vous, c'est pour une demande de titre de séjour pour votre employé, votre futur employé. En tout état de cause, il y a un dysfonctionnement. Comme on l'a donné un conseil, comme beaucoup d'avocats vous le conseillent, il faut prendre la diligence de garder les preuves que vous êtes connecté. Il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple, c'est de faire des captures d'écran déjà. C'est des commencements de preuves qui vont corroborer le fait que vous avez essayé plusieurs fois. Parce que tout le monde peut dire, ouais, moi j'ai essayé aussi depuis 5 mois. Il faut être de bonne foi. Il faut montrer qu'on est de bonne foi. Il faut garder ces preuves-là. Informatiquement, c'est très possible de les garder. Donc ça, c'est déjà un commencement de preuves. À la longue, si vous restez pendant un temps, pendant 4 mois, vous n'avez pas de rendez-vous, vous pouvez faire une injonction de motivation à la préfecture et votre avocat pourra saisir le tribunal administratif qui, lui, en lieu et place du préfet, pourra examiner votre dossier et lui faire injonction de donner le titre de séjour ou un rendez-vous pour examiner la naturalisation. Ça, c'est pour M. Gueye. Et pour ce qui vous concerne, vous, effectivement, vous soulevez aussi deux éléments très importants. Vous avez dit que vous avez l'information qu'à partir de 7 ans, votre futur employé peut demander un titre de séjour. A priori, cela ne veut rien dire. Ça dépend des conditions. Avant de prendre un rendez-vous, il faut savoir pourquoi vous allez demander ce titre de séjour. Ce que vous lisez parfois n'envoie à rien du tout. Il y a des gens très audacieux qui partent d'une expérience personnelle pour faire des informations sur Internet. J'ai fait ça, faites comme moi. Vous comprenez ça? Il faut très.
À chacun son expérience.
C'est des pseudo-experts qu'il faut éviter. Et puis parfois, les gens sont dans cet amalgame, vont accuser l'administration alors qu'ils n'ont pas pris la diligence d'avoir la bonne information qui les concerne. Comme le dit Phil, chaque vie répond à une considération. De fait, cette considération de fait renvoie à des droits. Ou pas. Donc pour vous, 7 ans, si c'est juste 7 ans en France, au niveau de l'emploi, ça ne donne pas du tout une connexion pour avoir un titre de séjour. Si maintenant cette femme a fait 7 ans ici en France, je pense bien que c'est une femme dont vous parlez, dans la restauration, est-ce que cette femme a travaillé pendant les 7 ans, monsieur ?
Elle a travaillé pendant... Elle peut justifier de 10 fiches de paye.
Très bien.
De 10 fiches de paye durant les deux dernières années.
Très bien, monsieur. Dans ce cas, elle remplit beaucoup de conditions. Vous comprenez ? Si maintenant, par exemple, le fait qu'elle ait fait 5 ans...
Par contre, à Lutel, on peut demander à notre ami de couper son poste.
Oui, c'est vrai, il y a le retour. Oui.
Voilà, qui fait un retour, ce n'est pas du tout agréable à l'oreille.
Ok, c'est coupé.
Voilà, merci. Allez-y, poursuivez.
Très bien. Donc, je vous disais que, monsieur, par rapport à ces cas de figure, même avec 5 ans, et que le fait que cette dame a des bulletins de paye sur l'année écoulée, à partir de 8 bulletins de paye, de manière continue, elle peut demander une régularisation. Donc, ça veut dire, sur la base des dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour, article 313-14 du Code des étrangers. C'est ça la base juridique. Parce que les gens vous renvoient des circulaires. La circulaire n'est pas une loi. En l'occurrence, on parle de la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne faut pas l'invoquer carrément. Il faut l'invoquer de manière accessoire. Le soubassement juridique, c'est cette loi-là. Maintenant, la circulaire, c'est une orientation qu'on donne au préfet pour appliquer la loi, mais avec le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire que même sans ça, vous aurez pu le faire. Mais cette dame remplit ces critères-là. Mieux encore, comme elle a fait 7 ans et qu'elle a travaillé, elle a une ancienneté dans le travail, même si elle n'avait pas de promesse d'embauche, elle est éligible à une régularisation. Il faut que toutes les personnes qui nous écoutent essayent de retenir cette information qu'on ne vous dit pas toujours. Et si dans certains domaines, comme les services à la personne, par exemple, il y a des personnes qui travaillent, qui ont du mal à avoir une promesse d'embauche à temps plein, sachez qu'il y a une circulaire dont on ne vous parle pas. Il faut vraiment être expert de la matière, avoir suivi l'évolution de la loi en 2010 qui permet à ces personnes-là, en ce temps-là, j'étais dans un comité interministériel avec le ministre Éric Besson, on a fait le travail pour que ces personnes qui auront du mal à avoir un contrat à temps plein, qui sont dans un système de turnover où, en général, l'enfant que vous gardez, dès qu'il grandit, on vous dit « ouais, on n'a plus besoin de vous », ces personnes sont facilement régularisables, même si elles n'ont pas une promesse d'embauche à temps plein. C'est la réponse à la première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez aller dans une autre préfecture comme à Toulouse pour demander ça? Faites très attention. En droit, c'est ce qu'on appelle le forum shopping. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est du shopping administratif. On ne peut pas faire du shopping administratif. Et beaucoup d'étrangers font cette erreur. C'est saturé. Dans le 93, tout le monde le sait.
Bah, je m'en vais dans le 92.
Ils vont aller à Carcassonne. Qui vont à Carcassonne, monsieur. C'est un exemple. Il y en a qui vont quitter 91 pour aller à Carcassonne. Comprenez, c'est encore pire. Ils vont loin parce que là-bas, il n'y a pas de tension migratoire, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Déjà, Carcassonne, on sait que déjà, il y a
une village.
C'est assez calme et c'est normalement assez bien. Mais l'erreur, c'est que vous devrez justifier que vous avez votre résidence là-bas. Voilà. Antérieurement, il y a des préfets qui vont vous demander de démontrer que sur les 6 derniers mois, vous avez au moins une preuve effective de votre ancrage géographique sur le territoire de compétence de cette préfecture. Donc faites attention, parfois on prend votre dossier, on peut le classer sans suite. En général, ils ne vont même pas prendre votre dossier. Et vous perdez du temps, vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'ils estiment que la preuve que vous donnez, à savoir le justificatif de domicile, ne correspond pas à la réalité de votre ancrage géographique. Donc pour que cette personne puisse aller ailleurs, il faut que vous preniez la précaution au préalable d'avoir cette adresse certainement. Ça, c'est une condition, mais aussi d'avoir une preuve officielle, comme par exemple l'aide médicale, ou bien un compte bancaire, ou bien une assurance habitation. Ça, c'est un conseil que je donne à toute personne. Il en est de même pour les gens qui sont en manque de rendez-vous pour la naturalisation. Ne surfez pas sur les préfectures pour dire qu'ils sont plus gentils là-bas. Apparemment, 91, ils sont plus gentils. Il n'y a pas de gentillesse. Les préfectures n'existent pas en tant que personne physique. C'est des personnes morales. Donc, il n'y a pas de gentillesse. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est mal luné dans une préfecture. Vous tombez sur une autre préfecture sur quelqu'un qui est bien luné. Donc, en résumé, chers amis, En l'occurrence, pour la question de Moussa Gueye, qui est très pertinente, et votre question qui est aussi très pertinente, au niveau des rendez-vous, si vous avez un problème...
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire du forum shopping, de ne pas faire du shopping administratif.
Oubliez Toulouse.
Oui. Vous restez là où vous êtes, d'accord ? Et si maintenant, vous pensez que c'est un obstacle insurmontable et qu'à Toulouse ou bien ailleurs, c'est possible, il faut que la personne prenne la précaution préalablement à l'introduction de sa demande de mettre en place son domicile là-bas. Ça veut dire d'avoir des preuves effectives. En ce moment, il n'y aura pas d'obstacle. C'est une solution à vous de juger. L'autre solution, c'est sur place, si elle ne veut pas déménager ou bien s'il y a trop d'éléments de preuve de sa présence dans son département actuel, ce qu'il faut faire, c'est de persévérer. Ça veut dire, vous avez écrit une lettre de motivation. Maintenant, ce que vous devez faire, comme toutes les personnes qui nous écoutent, comme aussi Mme Bouch, comme Moussa Gueye, comme pour vous, il faut envoyer à l'administration une injonction de communication de ce silence de l'administration qui ne parvient pas à vous donner un rendez-vous. Si l'administration ne vous dit rien, au bout de un mois, 30 jours après la notification de la réception du courrier que vous aurez envoyé un recommandé avec avis de réception, vous avez le droit de soumettre le dossier au tribunal. Le tribunal va l'apprécier et pourra faire une injonction à l'administration d'examiner le dossier ou même examiner le dossier en lieu et place et lui demander de lui donner un titre de séjour. Voilà le schéma le plus pratique. Tout le reste, ce sera un peu des yo-yo qui vont faire du temps et parfois de l'argent.
Alors à Lutel, je pense que c'est un dossier qui est tellement brûlant, on devrait certainement y revenir parce que nombreux sont ceux qui ont appelé et qui ne peuvent pas passer, le temps nous est véritablement...
D'autant plus qu'il y a le cas de Mme Bosch, on a dû perdre du temps et qui met ça le valait bien, elle le vaut bien, c'est pas du L'Oréal mais elle le vaut bien.
Voilà, elle le vaut bien Mme Bosch que l'on salue au passage, donc pour tous ceux qui n'ont pas pu passer ce matin, rendez-vous la semaine prochaine, donc vous pouvez déjà vous inscrire au 0155 07 58 00 et vous allez pouvoir nous faire partager votre témoignage et nous tenterons de donner quelques réponses. Voilà.
Et aussi l'intérêt d'écouter le podcast parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont utiles et qu'il faut diffuser au niveau de la communauté pour que les gens puissent savoir l'ampleur de leurs droits. Parce qu'il ne faut pas réclamer des droits qu'on n'a pas, mais il faut réclamer les droits qu'on a. En l'occurrence, ce sont des droits qu'on vous donne. Donc écoutez Africa Radio et aussi le podcast.
Merci à Lutel.
Merci Phil.
Le droit est nous. Dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.